nous laissons pas distraire par ce qu'il y a autour de nous. Je voudrais que chacun de nous prenne conscience que celui qui est bien là, présent parmi nous, est celui qui est le même de toute éternité, celui qui tient nos vies dans sa main comme un grain de sable, celui qui est à la base du souffle de vie qui nous anime, c'est celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, c'est aussi lui qui nous a sauvés par grâce, qui nous a arrachés des griffes du diable et qui nous a introduits dans son royaume de lumière, où désormais, eh bien, nous marchons par sa grâce en comptant sur lui, où désormais nous sommes devenus de véritables lumières, de véritables flambeaux brillants pour sa gloire. Avec reconnaissance, nous voici, Seigneur, tête inclinée devant toi, Seigneur, pour cette deuxième séance, cette deuxième soirée, au Dieu de notre séminaire consacré à cette menace que l'esprit de Jézabel. Nous voulons te remercier, Seigneur, d'avoir été avec nous hier, te remercier pour tout ce que tu as fait hier. Ô Dieu, tu as touché nos cœurs par ta parole, tu as affiné nos consciences par ta présence, tu nous as ouvert les yeux, ô Dieu, par ton Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous voulons nous attendre à une action de ton esprit encore beaucoup plus grande que celle d'hier. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous voici présents dans ta maison, présents, ô Dieu, devant toi, rassemblés autour de toi, afin, Seigneur, de recevoir de toi ta parole, la seule qui est capable, ô Dieu, qui a la puissance de nous édifier véritablement notre âme, notre esprit et notre corps, la seule qui est capable de renouveler notre intelligence, Seigneur, et nous rendre ainsi capables de discerner ta volonté pour nos vies, la seule qui nous communique la force et toutes les ressources, tant morales que spirituelles, dont nous avons besoin pour poursuivre notre marche dans la gloire. Merci, Maître, d'être présent et de nous enseigner par ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur, comme nous l'avons chanté. Nous voulons qu'alors que nous sommes rassemblés devant toi, que les écluses des cieux soient ouvertes et que, Seigneur, des grâces excellentes soient répandues sur chacun de nous. Nous sommes venus avec des besoins, nous sommes venus avec des préoccupations, nous sommes venus avec des attentes, Seigneur. Ô Dieu, quelle que soit leur nature, nous voulons que ce soir, alors que nous sommes là, ô Dieu, que par ton esprit tu nous rencontres dans nos besoins. Seigneur, que par ton esprit tu nous fasses du bien, que tu réchauffes notre âme du feu de ton esprit, du feu, ô Dieu, qui descend d'en haut, que tu nous remplisses de ton amour, que tu nous donnes la force de te suivre, Seigneur, en prenant notre croix et en marchant ensuite, ayant nos regards posés sur toi et nos cœurs attachés à toi. Bénis ta parole, bénis ton serviteur, fortifie-le, Seigneur. Bénis ton peuple, ô Dieu, le troupeau de ton pâturage, Seigneur, qui constitue une des cibles privilégiées de l'esprit de Jézabel. Que ton peuple qui est là ce soir, mais aussi que tous ceux qui nous suivront à travers les différents médias, puissent, Seigneur, ô Dieu, recevoir ta vérité, la seule qui puisse régénérer leur intelligence, la seule qui puisse leur ouvrir les yeux, pour qu'ils voient, Seigneur, et démasquent cet esprit de manipulation, cet esprit de fausse prophétie, cet esprit, ô Dieu, qui agit au travers de toutes sortes de pouvoirs mystiques, de pouvoirs occultes, de pouvoirs ésotériques et autres. Parle-nous, fais-nous du bien. Merci, Seigneur, car tu nous aimes. Et là où tu es, là il y a ta gloire. Et nous voulons que cette gloire nous couvre, Seigneur, afin que nous soyons à l'abri de tout ce qui pourrait nous venir du monde des ténèbres, alors que nous allons parler de toi, alors que nous allons, Seigneur, ô Dieu, dénoncer les œuvres macabres, funestes, Seigneur, de cet esprit, dénoncer l'aveuglement, Seigneur, qu'il utilise pour frapper de cécité ton peuple et l'empêcher de voir comme toi tu vois et de te voir comme tu es. Bénis, sanctifie ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Nous avons commencé hier. Aujourd'hui, c'est notre deuxième soirée dans le cadre de notre séminaire consacré donc à cet esprit d'aveuglement qui qui frappe de plus en plus, eh bien, beaucoup d'hommes et de femmes qui se réclament du Christ, parler de cet esprit de manipulation qui essaye par tous les moyens, eh bien, de distraire les gens, de les séduire, de les aveugler et de les éloigner loin, très loin de leur Sauveur, de celui qui est mort à la croix, qui seul est capable de nous maintenir dans la vérité et de nous amener jusque dans sa gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes donc en train de parler du jézabélisme. Pour ceux qui aiment des mots comme celui-là, parler des influences, parler des actions de cet esprit qui est de plus en plus actif dans notre monde aujourd'hui. Nous l'avons vu hier et aujourd'hui nous allons essayer un peu d'aller voir comment tout a commencé et comment aussi le Seigneur a tout fait pour empêcher que cet esprit de Jézabel ne continue pas à sévir et à faire de plus en plus des ravages parmi son peuple. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons relire notre texte de la fois dernière, à savoir Apocalypse chapitre 2, 18 à 29. Un texte très clair qui nous montre une fois de plus qu'aucune église n'est à l'abri, qu'aucune église n'est invulnérable par rapport à l'action, à l'influence et la manipulation de cet esprit-là. Nous sommes tous exposés. C'est la raison pour laquelle nous l'avons vu hier. Cette mise en garde que l'apôtre Paul a adressée à Éphèse, eh bien, était aussi valable pour Thyatire. Elle est aussi valable pour la borne aujourd'hui. Elle est aussi valable pour toute église, eh bien, où qu'elle soit, et quelle que soit l'époque dans laquelle elle vit. Nous lisons, à partir du verset 18, « Écris donc à l'ange de l'église de Thyatire, c'est le Seigneur qui parle, hein. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance ou ton endurance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite ou à la débauche ou à la pornéa et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite, de sa débauche ou de sa prostitution. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, tous ses disciples, hein. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine, et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il le fera paître, comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes donc toujours dans ce registre des menaces, des dangers qui guettent de plus en plus l'Église de Jésus-Christ, alors qu'elle est en train de s'approcher tout doucement, mais sûrement, de son enlèvement et de sa rencontre avec son époux, à savoir Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au fur et à mesure que cette Église évolue à travers l'espace et le temps, au fur et à mesure que cette Église, mes amis, avance en se tenant, eh bien, en s'appuyant sur le Seigneur, sur son chef, sur son maître, sur celui qui est le constructeur de cette église, celui qui en est l'architecte, eh bien cette église est de plus en plus exposée à toutes sortes de menaces, à toutes sortes d'obstacles qui viennent de la part du monde des ténèbres. L'ennemi, dans sa haine contre le Fils de Dieu, eh bien, est en train de tout faire pour s'acharner sur tous ceux qui ont reçu dans leur vie le Fils de Dieu. Alléluia. Car ceux-là, de par leur position en Christ, de par l'expérience qu'ils ont faite de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie, après s'être repentis, après avoir, eh bien, tourné le dos aux œuvres de la chair, au monde et à lui-même le diable, eh bien, tout cela étant devenu des lumières sur cette terre plongée dans les ténèbres, tout cela étant devenu des sels de la terre dans ce monde de plus en plus corrompu, eh bien, tout cela vont faire l'objet d'une attaque de plus en plus croissante de la part de Satan qui n'hésite pas à jeter, à lever son armée, mes amis, contre l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que quoi que l'ennemi fasse, la victoire est toujours possible. Gloire au Seigneur. Et un des objectifs de ce séminaire, ce n'est pas seulement de montrer à chacun de nous quelles sont les caractéristiques de cet esprit, comment cet esprit a frappé durement, déjà à cette époque-là, cette église de Thyatire, qui était une église comme la nôtre, qui était une église comme tant d'autres églises à travers le monde. Le but, ce n'est pas simplement de permettre à chacun de nous de recevoir une certaine connaissance, un certain savoir sur la manière d'agir, la manière d'être, etc., la nature diabolique de cet esprit. Mais le but, au-delà de tout cela, c'est d'amener chacun de nous à réaliser que quel que soit le type d'esprit en face de nous, quel que soit le danger en face de nous, quel que soit l'obstacle, cet obstacle peut être aussi grand que le pic Everest, eh bien, quel que soit cela, la victoire est possible, car celui qui est en nous est plus fort et plus puissant que tous ces esprits séducteurs. Celui qui est avec nous, celui qui combat pour nous, s'appelle le guerrier redoutable. Alléluia. C'est le héros des nations. Quand il entre dans une bataille, l'issue est connue d'avance. Il remporte toujours des victoires. Avec lui, c'est le triomphe absolu. C'est donc un des objectifs, alléluia, et je dirais même c'est l'objectif majeur, que chacun de nous réalise que tous ceux qui sont tombés, mes amis, dans le piège, dans le filet de cet esprit séducteur, de cet esprit manipulateur, que tout cela, eh bien, voient leurs yeux s'ouvrir et réaliser comment le diable les avait aveuglés par et au travers de cet esprit, et en même temps qu'ils puissent se repentir, car Dieu, tant que cette période de la grâce dure, a toujours ses mains tendues vers l'humanité tout entière. Alléluia. Il n'y a pas un homme qui soit indigne de la grâce de Dieu. Alléluia. Tout homme peut venir, revenir à Dieu et se jeter dans ses bras. Donc, au fur et à mesure que l'Église avance, le diable aussi élabore des projets, plutôt des stratégies, pour essayer de mettre des bâtons dans le roue de l'Église. Et une de ses armes, surtout dans ces temps de la fin, c'est ce trio diabolique, Bélial, Gabata, Jézabel, qui font partie, comme je l'ai souligné hier, de cette constellation satano-diabolo-démoniaque qui exerce de plus en plus son emprise, mes amis, sur l'humanité et en particulier sur l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Et l'Église dont il est question, qui nous a servi d'introduction à notre séminaire, à savoir l'Église de Thyatire, eh bien, en a fait le frais. Et la raison, c'est que les responsables, les serviteurs que Dieu avait établis comme responsables dans cette Église, ceux-là même que Dieu avait donné une certaine onction d'être pasteur, d'être ancien, pour veiller sur son troupeau qui était à Thyatire, eh bien, ces responsables-là n'avaient pas veillé d'abord sur eux-mêmes, comme du reste ceux d'Éphèse, et puis ensuite veiller sur le troupeau sur lequel le Seigneur les avait établis comme épiscope, surveillants, comme anciens, etc. Pour n'avoir pas veillé sur eux-mêmes, pour n'avoir pas veillé sur l'Église, le troupeau du Seigneur, eh bien, ils ont laissé une femme manipulée par l'esprit de Jézabel semer le trouble. Une femme manipulée par des puissants des ténèbres, eh bien, devenir enseignant, pas de n'importe quoi, mais enseignant d'une doctrine qui égarait de plus en plus, eh bien, les fidèles et qui créait au sein de l'Église une atmosphère malsaine, une atmosphère impure et qui créait des conditions favorisant l'inconduite, la débauche, voyez-vous, et qui amenait tout droit les gens et les serviteurs et ceux qui avaient succombé à cet esprit-là, eh bien, à se retrouver à la table où il y avait des viandes sacrifiées aux idoles et par conséquent à entrer en communion avec les démons. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, à propos des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit que ce qui est sacrifié aux idoles est en vérité sacrifié aux démons. Et quand vous vous retrouvez à la table, mes amis, à la table sur laquelle se trouvent des sacrifices faits aux idoles, en réalité, vous vous retrouvez à la table des démons et vous entrez en communion avec eux, avec tout ce que cela entraîne comme conséquence néfaste. Voyez-vous? Et cette église, hélas, va donc subir les affres de ce que j'ai nommé la louve de l'enfer. Vous connaissez la louve? C'est la femelle du loup, hein? Oui ou non? Cette louve a trouvé une brèche. Voilà pourquoi le Seigneur, à l'époque d'Ézéchiel comme aujourd'hui, à l'époque de tous les autres prophètes, eh bien, lance le même message. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui s'y intercède. Une brèche s'est ouverte. Et cet esprit n'a pas attendu qu'on l'invite. Hein. Il est passé par cette brèche et cette louve va faire des dégâts d'abord parmi les responsables. Voyez-vous, elle va conduire certaines, eh bien, à se retrouver dans des péchés à peine nommables, des péchés de débauche, de prostitution. Voyez-vous? Et hélas, quand on regarde aujourd'hui, eh bien, on voit que les choses n'ont pas changé. Oui ou non? C'est pourquoi je voudrais, mes amis, que chacun de nous ouvre les yeux. Nous vivons dans une ville où il y a de plus en plus d'églises qui s'ouvrent. C'est une bonne chose en soi. Mais attention, ne soyons pas crédules, ne soyons pas naïfs. Ne pensons pas que tout ce qui brille est d'or. Voyez-vous, beaucoup d'églises sont ouvertes par des gens intéressés. Car aujourd'hui, avoir un ministère est devenu une sorte d'ascenseur social. Voyez-vous? Eh bien, pour attirer les gens, beaucoup recourent à la fausse prophétie, beaucoup recourent à la manipulation, beaucoup recourent, mes amis, à des pratiques bizarroïdes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et qui ne reflètent en rien la sainteté ni la justice de Dieu. Vous voyez? Beaucoup profitent de cette situation, certes, socio-économique très difficile. Beaucoup profitent, surfent. Voilà, c'est le verbe qu'il faut utiliser. Surfe sur la détresse des gens, voyez-vous? Surfe sur le fait que les gens sont de plus en plus fragilisés, voyez-vous? Ils ne savent plus quoi faire, ils sont presque désarmés pour essayer de les manipuler. Et quelquefois, quand on voit des images de gens qui se mettent en évidence, des prophètes, des apôtres, qui se livrent à des spectacles, bien que cela paraisse comme étant de l'aventurisme spirituel, et bien que cela étant comme une sorte de talibanisme spirituel, eh bien, les gens sont là pour les acclamer, les gens sont là pour les aduler, les gens sont là pour les mettre sur un piédestal et faire d'eux l'objet de leur admiration. Oh, notre prophète! Oh, le super apôtre! Voyez, on le voit aujourd'hui. Ce n'est plus suffisant d'être apôtre. Il faut ajouter un adjectif. Oui ou non? super apôtre, extra apôtre, hyper apôtre. Ce n'est plus suffisant d'être évangéliste à l'époque, je me souviens. À un moment, le Congo, notre pays, avait eu l'occasion de recevoir pas mal d'évangélistes venus du monde entier. Moi-même, j'ai profité au maximum de leur venue. Dans les années 80, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait autrefois la place du pont Gabi. N'est-ce pas? Là, on a construit les stades de martyrs. Voilà, merci. On allait là-bas régulièrement. Des hommes de Dieu venaient des États-Unis, venaient d'Europe, d'un peu partout, prêcher la bonne nouvelle. Et nous étions là, pratiquement à chaque campagne d'évangélisation. Évidemment, pour faire leur publicité, il y avait des affiches, évangéliste international, etc. Une terminologie que personnellement, je n'ai jamais partagée, comme si il y avait aussi des évangélistes nationaux. Comme s'il y a un évangile international et un évangile. Il est simplement évangéliste, c'est tout. Il vient au Congo, le Seigneur lui ouvre la porte. Demain, il se retrouve dans son pays, il prêche le même évangile. Il est toujours. Alors tout le monde, à un certain moment, 2, 3, 4 ans plus tard, eh bien certains ont vu dans l'avenue de tous ces gens-là une opportunité, voyez-vous, de devenir évangéliste international. Il y en a qui n'avaient jamais quitté la ville de Kinshasa. Voyez, qui n'avaient jamais été au-delà de Kasangoulo. Et qui à un moment, lors de leur campagne d'évangélisation, j'ai vu, on ne m'a pas raconté, mettez évangéliste, hein? C'était devenu comme une marque pour vendre. Comme ça, ça attirait les gens. Ça faisait un peu peut-être spirituel, voyez? Et puis après, avec le temps, c'est fini. Évangéliste, non. Ça, c'est... Il y a eu le phénomène pastoral. Tout le monde devenait pasteur. Voyez? Tout le monde, hein? Et pour peu que quelqu'un savait méditer la parole de Dieu, pour peu qu'il a fréquenté un groupe de prière quelque part, à Kingaboua ou ailleurs, et pour peu qu'il sache jeûner, c'est fini, le lendemain, il devient pasteur. Il ouvre sa petite église, et puis avec le temps, il y a eu tellement de pasteurs, mais alors il faut faire la différence. On devient qui? Bishop. Même pas en français, évêque. Non, il faut que ça sonne en anglais. Bishop. Voyez, on est bishop. Alors mettez-vous à la place de toutes ces femmes à la cité, dans des petites églises, qui n'ont jamais entendu parler de bishop en anglais. Et qui entendent leur pasteur du jour au lendemain, ils viennent de bishop. Alors vous imaginez une femme qui est assise, toujours fidèle au Seigneur, toujours présente, et puis qui entend tout d'un coup le collaborateur du pasteur qui l'appelle bishop. Et vous imaginez, il dit quoi, bishop. Et puis après, bon, bishop, il faut ajouter un adjectif. Archibishop. Archibishop. Voilà. Archibishop. Oubliant que dans l'histoire de l'Église, un archibishop en anglais ou archevêque en français, c'est un prélat, c'est un responsable d'Église, notamment l'Église catholique, qui a autorité sur les autres prélats, c'est-à-dire sur les autres évêques. Mais ces archi-évêques n'ont même pas de pasteur adjoint. Et n'ont même pas d'évêque sur qui ils peuvent régner, d'office ils deviennent. Il y a quelque chose derrière. Oui ou non? Ça ne peut pas être simplement un phénomène de monde. Derrière tout ça, il y a toujours le même esprit qui essaie de distraire. Parce que dès lors que quelqu'un court après le titre, c'est qu'il court après la notoriété des hommes. Dès lors que quelqu'un court après tout cela, c'est qu'il est en train d'aspirer à la célébrité qui vient de la part du monde. Parce que dans le monde, on voit même nos musiciens ici. On voit nos musiciens ici du monde, évidemment. Ils ont tous de noms de gens célèbres. Une fois, j'étais naïf. il y a peut-être 2 ans d'ici, et puis je vois Bill Clinton à Kinshasa. Peut-être qu'il est là ce soir, il est venu écouter la parole de Dieu, mais enfin, j'ai réagi à moi-même, je me suis dit, mais c'est formidable. L'ancien président américain sera dans nos murs. Non, c'est plus tard que j'apprendrai, eh bien, c'est le nom d'un musicien. Voilà. Le nom de joueur de football et tout ça. Vous pouvez croire que ce sont ces gens qui viennent ici. Mais c'est parce qu'attention, ils sont intelligents. Ils prennent le nom qui sont très connus. Oui ou non? Eh bien, ils se le portent. Ce sont des titres ou de sobriquets qui se donnent. C'est tout ça. Voyez. Donc, ce n'est pas simplement un phénomène de monde. Lorsque cela, eh bien, se retrouve dans l'Église, qui est supposée être la maison de Dieu, où tout doit être fait sous l'inspiration de son esprit, où tout doit être soumis à l'autorité de sa parole, lorsque tout cela est fait, mes amis, c'est que là, il y a un problème. Il y a plus qu'un phénomène de monde. Il y a l'ennemi qui profite de cette brèche qui s'est ouverte pour essayer de distraire les gens. C'est ainsi que les gens aujourd'hui veulent absolument être reconnus comme super apôtres, être reconnus comme évêque maréchal. Vous voyez? Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. Voyez-vous? Donc, nous devons faire très attention par rapport à tout ça. Et l'Église de Thyatire a été complètement aveuglée, se retrouver avec cette femme prophétesse, au caractère tout trempé, à la personnalité forte, car arriver à rouler le pasteur de l'Église dans la farine, il faut du caractère, oui ou non? Il faut une forte personnalité, oui ou non? Eh oui. J'ai été une fois en Hollande, où j'avais été prêché à Feyenoord. Et le pasteur qui m'avait reçu, c'était une église africaine, j'ai remarqué une chose, qu'il y avait une sœur au caractère tout trempé. Je l'ai remarqué parce que elle se permettait d'appeler le pasteur, viens, viens, viens. Et puis elle lui intimait les ordres. Jusqu'à un certain moment, bon, elle était tout le temps dans mon sillage. À chaque fois que je devais demander quelque chose, forcément c'est elle qui était là. Ouais. À un moment, il s'est même permis de s'asseoir au culte. Hein. Mais ce jour-là, le pasteur a eu la grâce de recevoir un peu la force du Saint-Esprit. Parce que je me souviens, il s'est approché, il dit, non, approchez-vous là-bas. Elle était la première à en parler. Elle avait un poids dans cette église, vous voyez, et le pasteur, c'était comme une marionnette. Vous connaissez là, des marionnettes, hein? Voyez? Donc, on peut facilement sombrer, vous voyez. On peut facilement être aveuglé, se retrouver avec quelqu'un qui fait la loi, alors que, de par sa position, de par sa responsabilité, il n'a pas reçu cela de la part du Seigneur. Alléluia. Et à Laodicée, hélas, cette femme, au-delà de la femme physique, cet esprit que nous appelons Jézabel, a fait beaucoup de dégâts. Mais avant d'observer, d'examiner ensemble le caractéristique jézabélistique de Jézabel, je voudrais que nous revenions, que nous allions où tout a commencé. Car le Jézabel ou la Jézabel du livre de l'Apocalypse, eh bien, c'est une personne, nous sommes à l'époque du Nouveau Testament, mais il y a dans l'Ancien Testament déjà une femme qui va s'illustrer dans l'histoire d'Israël d'une certaine manière, voyez-vous. Et là, nous pouvons voir que déjà à cette époque-là, cet esprit
se manifester et nous allons ensemble voir quels sont, mes amis, les éléments, les facteurs qui ont concouru et qui ont fait que, eh bien, cette Jézabel-là puisse se retrouver sur la scène biblique et puis ensuite se mettre, mes amis, à faire un travail de destruction. Nous sommes donc dans un roi, très rapidement, un roi chapitre 16, Nous allons examiner le contexte, car le contexte nous permettra de comprendre pourquoi cette louve sidonienne, phénicienne, païenne de surcroît, idolâtre, adoratrice d'Astarté et de Baal, nous verrons de par l'étymologie de son nom, comment cette louve-là a fini, mes amis, par se retrouver dans la bergerie du Seigneur, comment s'est-elle infiltrée, a-t-elle atterri dans l'histoire d'Israël. Elle est venue de quelque part. 1 Roi 16, 29 à 34. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux du Seigneur, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. L'homme qui agit comme ça, eh bien, est à la tête du peuple de Dieu. Akab fit aussi le poteau d'Akéra, c'était donc la représentation de cette divinité féminine, adorée également à cette époque-là, fit plus encore, donc d'Akéra, et Akab fit plus que encore pour irriter le Seigneur, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. De son temps, Yael de Bethel bâtit, il eût fallu ajouter rebâtit. Voyez, Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son fils aîné, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son cadet, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Noun. Voilà comment Jézabel atterrit dans l'histoire du peuple de Dieu. Voilà comment cette femme d'arrière-plan païen, cette femme adoratrice de faux dieux, eh bien, se retrouve, eh bien, aux côtés du roi d'Israël et va finir, de par cette alliance conjugale, contractée entre les deux, va finir par manipuler son mari, va finir par exercer un pouvoir de séduction terrible au point de l'amener, mes amis, à faire des actes abominables aux yeux de Dieu, de conduire non seulement le mari, son roi de mari, mais aussi le peuple d'Israël dans la religion, la fausse religion, dans l'idolâtrie, dans le blasphème, créer une sorte d'anarchie spirituelle et morale qui va donc permettre à cet esprit de Jézabel de pouvoir agir sans aucun problème. Dieu avait dit, vous pouvez lire ça dans 1 Roi, chapitre 11, verset 10, on n'a pas le temps, hein, on n'a pas le temps de lire. Verset 2, 1 Roi 11, 2, il avait dit à propos de roi d'Israël, qu'il, et d'ailleurs de tout le peuple d'Israël, qu'il ne devait pas aller chercher des épouses, aller chercher des femmes païennes pour en faire des épouses. Car Dieu leur avait mis en garde en disant, vous n'irez pas chez elles, elles ne viendront pas chez vous, elles détourneraient, elles inclineraient certainement vos cœurs
vers leur Dieu.
C'était quelque chose que Dieu, un commandement que Dieu avait donné à Israël. Mais malgré ce commandement, Salomon va, malheureusement, contrairement à son père, va aller lier des alliances avec toutes sortes de femmes et se retrouver lui-même à servir Baal, à adorer Astarté et à tourner le dos au Seigneur, son Dieu. Voilà comment, mes amis, Jézabel est arrivée dans la vigne du Seigneur d'Israël, en renard, en destructeur. Vous voyez? C'est donc par un mariage, une alliance contre nature. Voyez, mes amis, avant de poser des actes dans la vie, il faut réfléchir trois fois. Voyez? Il faut réfléchir trois fois. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devrions toujours nous tourner vers lui avant de prendre une décision, et surtout lorsqu'il s'agit de lier sa vie à quelqu'un d'autre. Surtout lorsqu'il s'agit d'entrer en alliance, car le mariage est une alliance sacrée. Le mariage, mes amis, c'est une union sacrée. Voyez-vous? Avant de s'engager dans le mariage, il est important de réfléchir. Car beaucoup aujourd'hui ont des problèmes dans leur couple parce que ils n'avaient pas ou elles n'avaient pas tenu compte des recommandations de la parole du Seigneur. La Bible est claire, mes amis, eh bien, ne formez pas avec les incroyants, quoi? Un attelage disparate. Car quelle union, mes amis, quel rapport y a-t-il entre d'un côté la lumière et de l'autre les ténèbres? Donc il faut réfléchir. Ce qui a permis aussi à cette louve d'entrer dans la bergerie du Seigneur, eh bien c'est cette alliance, ce mariage d'Akab, fils d'Omri, roi d'Israël, avec cette païenne sidonienne. Donc, c'est ainsi que Jézabel va entrer dans la bergerie du Seigneur. Alléluia. Et c'est ainsi qu'elle va apporter, qu'elle va influencer le roi, qu'elle va le manipuler, qu'elle va utiliser sa puissance, son pouvoir de séduction pour, par lui et au travers de lui, combattre le vrai prophète de Dieu, voyez-vous, et défendre les faux prophètes qui entraînaient le peuple dans l'égarement et dans la rébellion vis-à-vis de leur Dieu. Mais avant d'aller plus loin, pour permettre à chacun de nous de comprendre le zèle que cette femme a eu, voyez, le zèle qu'elle a eu à déployer pour répandre le culte de Baal en Israël, il faut que nous remontions à ses origines. Jézabel, nous l'avons lu, est fille d'Ethbaal, son père, dont le nom veut dire avec Baal, quelqu'un qui est avec Baal. Et je vous rappelle, c'est parce que bon, c'est pas un cours d'histoire ou des cultures. Baal, c'était un faux dieu, c'était le grand dieu adoré par le Cananéen à cette époque-là, dans toute cette région. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez tous appris qu'il y a une ville très touristique en Syrie qui s'appelle Palmyre, qui est tombée, hélas, entre les mains des intégristes et des obscurantistes de l'État islamique. Eh bien, dans cette ville-là, on a montré à un certain moment des images d'un beau palais, hein, un beau temple. Eh bien, c'était un temple dédié à Baal, qui était représenté par un taureau, symbole de force, mais aussi de pouvoir sexuel, etc. Nous reviendrons un tout petit peu là-dessus. Donc voilà le nom déjà du papa. Voilà le nom de son père. Et Baal, avec Baal, dans son identité, avec Baal dans ce qu'il faisait. Car non seulement il s'appelait Baal, mais son père faisait partie du sacerdoce. Il était un prêtre d'Astarté, qui était aussi une divinité adorée à cette époque-là. Donc, prêtre, très actif dans le culte païen. Très actif, mes amis, dans ce culte idolâtre. Donc, prêtre, membre du sacerdoce, portant un nom qui montrait très bien son attachement à Baal, non seulement dans son identité, mais également dans ce qu'il faisait. Mais comment ce prêtre est-il devenu roi des Sidoniens? Voyez-vous, roi de Sidon et des Tyres, c'était des villes côtières, que vous pourriez d'ailleurs visiter aujourd'hui si vous allez là-bas au Liban, eh bien, ou en Israël, et en Israël, comment est-il arrivé à être roi, Et Baal, lui qui était le sacrificateur? Eh bien, c'était par un assassinat. Il avait assassiné celui qui était roi à l'époque de Sidonien. Et lui, le prêtre, est finalement monté sur le trône. Voyez-vous que déjà le commencement, mes amis, montre qu'effectivement, cette fille, dès son bas âge, a baigné dans cette atmosphère de Baal, d'Astarté. Dès son bas âge, elle a été encensée. Elle a été plongée dans cette huile démoniaque. Voyez, elle a été lavée dans toutes ses pratiques idolâtres. Elle a grandi, mes amis, dans le culte à Baal et à Astarté. Et vous comprenez pourquoi cette femme va déployer un zèle diabolique pour détruire le culte de Yahvé et donner au peuple l'occasion de servir les Astarté, les Baal, enfin toutes ces divinités païennes. Voyez. Donc, laisser les gens un pied vers Yahvé et un autre pied vers toutes ces divinités. Donc, elle-même, je parlais de son origine, du nom de son père Et Baal. Comment, qui il était? C'était d'abord un prêtre, membre du sacerdoce, qui, par un assassinat, est arrivé sur le trône et qui a donné à sa fille un nom qui montrait, eh bien, c'est à quoi cette fille était destinée. Jézabel, de l'hébreu, Isabel ou Isabel, puisque le B et le V en hébreu, eh bien, vous avez la même graphie, c'est le bête, tantôt ça se prononce V, tantôt ça se prononce B. C'est ainsi que dans le chant qu'on a chanté, Elohim Tsevaot. Mais bon, on écrit Tsevaot parce que nous, V et B, chez eux, c'est la même lettre. Tsevaot, c'est-à-dire des armées. Dieu des armées, Elohim Tsevaot ou Tsevaot, c'est pareil. Donc, Isabel, ce nom peut avoir plusieurs significations. D'abord, Baal exalte. Et vous savez ce que ça veut dire exalter, Vous savez, ça vient du latin ou de l'italien, élever. Quand nous disons Seigneur, nous t'exaltons, nous disons que Seigneur, nous, Baal exalte. Par sa fille, eh bien, elle exaltait, elle élevait qui? Baal, la divinité. Et en même temps, elle s'attendait à ce que Baal, ce faux Dieu, puisse élever, puisse exalter sa fille. Deuxième sens de Jézabel, Baal est son époux. Vous comprenez pourquoi il va y avoir une séduction à l'église de Thyatire. Le Seigneur va mettre le doigt sur la prostitution. Voyez, la débauche, des relations impures, l'inconduite. Baal est l'époux. Voilà donc, mes amis, l'origine de cette femme qui va débarquer par un mariage contre nature, dans l'histoire d'Israël. Nous voyons déjà que le début est très mauvais, oui ou non? En Israël, à cette époque-là, il régnait un climat terrible, voyez, donc d'idolâtrie, un climat de blasphème, un climat de rejet de Dieu. Tout c'était la rébellion. La rébellion vis-à-vis du Seigneur. La rébellion à tout bout de champ. Voyez? À cette époque-là, on avait le nom du Seigneur, Yahvé. On avait ses commandements. Mais en même temps, on avait aussi Baal. On avait des autels, dédiés à Baal, des hôtels dédiés à Astarté, à des faux dieux, mais en même temps, on pouvait aller à la maison de Dieu, qui d'ailleurs, Jéroboam avait fait construire. C'est parce que je n'ai pas le temps de remonter, d'aller jusqu'au-delà. Voyez, alors que Dieu avait dit que c'est en Israël, plutôt à Jérusalem, qu'il allait se révéler, la maison qu'il allait habiter devait se trouver à Jérusalem, eh bien, quand Jéroboam, lors du schisme, a vu qu'il courait les dangers, que tout le peuple, à toutes les fêtes, parte, descendre en Juda, il a créé un sanctuaire. Donc c'était Israël, à cette époque-là, c'était le lieu de la fausse religion. Voyez-vous, le lieu de la rébellion, de l'idolâtrie. Et en plus, pour vous montrer le climat moral et spirituel, Jéricho avait été reconstruit ou rebâti. Rappelez-vous que cette ville avait été un obstacle sur la route et pour le Seigneur et pour son peuple d'Israël. Vous rappelez? Et que c'est sur intervention du Seigneur que les murs et les portes de cette ville étaient tombés. Au son des trompettes, voyez-vous, entre les mains des sacrificateurs, et selon l'ordre du Seigneur, cette ville avait été ravagée. C'est comme ça que Jéricho était tombé. Et Dieu avait accompagné cette victoire extraordinaire, cette victoire éclatante, d'un jugement qui consistait donc à ne jamais rebâtir ce que Dieu venait de détruire. Ne jamais rebâtir ce que Dieu venait de renverser. Et Dieu avait dit dans Josué 6, je crois 26, que quiconque oserait rebâtir cette ville, eh bien, le ferait au prix de ses propres enfants. Mais le climat était tellement pollué, la corruption morale et spirituelle était telle qu'un homme a eu un courage et une audace démoniaque pour aller à l'encontre de la parole que le Seigneur avait prononcée et ainsi redresser, rebâtir ce que Dieu avait lui-même détruit. Quelle abomination, voyez-vous? Donc c'était une période d'impiété, de relâchement moral, d'anarchie spirituelle, de rébellion, de blasphème et de tout ça. Telle est alors la radioscopie morale et spirituelle de cette époque-là. Quand on regarde cette époque qui a permis à Jézabel, mes amis, d'atterrir dans l'histoire d'Israël, eh bien, on se rend compte que le parallèle entre cette époque-là et notre époque peut être établi sans forcer le texte, oui ou non. Eh bien, regardez mes amis, quand les missionnaires sont arrivés ici, au Congo, en particulier dans cette ville de Kinshasa, ils ont annoncé l'évangile du Christ. Ils nous ont montré le chemin de la lumière. Ils ont condamné toutes ces pratiques de faux dieux, oui ou non. L'occultisme, la sorcellerie, voyez-vous, l'immoralité, toutes ces choses, eh bien, à la lumière de la parole de Dieu, s'étaient avérées être des abominations pour nous. Et ceux qui s'étaient convertis à cette époque-là peuvent témoigner qu'ils s'étaient engagés dans une vie de sanctification incroyable. C'est ainsi qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont levés il y a 30, il y a 40 ans, 50 ans, mes amis, après s'être convertis, ils ont commencé à leur tour à prêcher l'évangile du royaume. Alléluia. À mettre le doigt sur l'immoralité, à dire aux gens, on ne peut pas avoir deux ou trois femmes, à dire aux gens que le mariage, eh bien, est une union inséparable, indivisible, qu'il fallait absolument veiller à ce qu'on reste dans le mariage jusqu'à ce que la mort intervienne. Ils ont prêché cela, oui ou non? Ce sont des choses qui ont été renversées. Mais aujourd'hui, à quoi assistons-nous? On est en train de rebâtir. L'occultisme, la magie, revient avec une autre étiquette. Voyez-vous, les gens qui s'improvisent prophètes et qui essayent de deviner, de prédire aux gens, ces gens-là, mes amis, pratiquent quoi? La sorcellerie. Quel pouvoir as-tu de dire à quelqu'un Alors que Dieu ne t'a pas révélé, même si tu dis Dieu m'a dit, toi-même tu sais qu'il ne t'a jamais dit quoi que ce soit. Car s'il devait te parler, il devrait d'abord te dire non, tu es cupide, tu es rempli de convoitise, tu dois te repentir, tes yeux sont remplis d'impureté. S'il devait te parler, il devrait d'abord commencer par toi. Quand Moïse a reçu la loi, les deux tables, la Bible nous dit que c'était écrit de part et d'autre. Quand il a présenté la loi, avant de la présenter au peuple, cette même loi l'interpellait. Alors on met le nom de Dieu à tout. Et aujourd'hui, mes amis, le climat est pollué. Combien de familles souffrent aujourd'hui à cause de fausses prophéties? Combien de vies sont détruites? Combien de mauvais choix ont été faits parce qu'au départ, quelqu'un a rêvé? Parce qu'au départ, quelqu'un a reçu une vision. Il vous a vu sur les ailes d'un aigle dans le songe. Et il a dit, ah, c'est la gloire. Il vous a dit, oui, vous pouvez aller. Dieu m'a dit que vous êtes sur l'aigle. Alors qu'en réalité, vous êtes sur le dos d'un corbeau. On vous fait croire des choses. Les gens ne réfléchissent plus. Mon frère, que ton œil s'ouvre. Que tes oreilles entendent cette parole. C'est ton droit de mettre en doute, je le répète. C'est ton droit, et j'ajoute, le plus légitime. Je le redis. C'est ton droit de la part du Seigneur de remettre en question toute prophétie, quand bien même elle viendrait d'un ange. Dès que cette prophétie nous conforte dans le péché, ça ne peut pas venir de Dieu. Car la première chose que Dieu fait lorsqu'il y a le péché, il met le doigt. Il amène la personne à réaliser son état de pécheur. Et en même temps, il suscite la conviction du péché et la nécessité de confesser son péché, de se repentir. Ça, c'est ce que Dieu fait. Dieu ne va pas s'amuser comme ça, il révèle les gens. Toi, viens, je vais te dire. Dis-lui que je t'aime ou je l'aime. C'est bien. Mais moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que Dieu m'a dit qu'il m'aimait. Entre nous. Hein? Entre nous. Parce que Dieu lui-même l'a dit. Dites-moi, Jésus lui-même dit quoi? Dieu a tant aimé, et dans le monde là, il y a un bon dos. Jésus me dit qu'il m'aime. Voilà. Maintenant, si toi tu viens, Dieu, Jésus t'a dit, oui, ça peut être pour me rappeler, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Vous voyez? Mes amis, faisons très attention. Nous nous retrouvons dans la même configuration que l'époque d'Akab, où tout ce qui a été détruit autrefois. Autrefois, on nous prêchait la sainteté. Autrefois, on nous prêchait le désintéressement dans le service du Seigneur. Autrefois, on nous prêchait que celui qui compte, qui espère être enlevé, devrait se sanctifier. Mais aujourd'hui, cet évangile est de plus en plus galvaudé. Cet évangile est de plus en plus rejeté. Et à la place, on prêche des choses qui sont agréables aux oreilles des gens. Oh, le Seigneur vous aime. Très bien. Il veut que tu sois prospère. Très bien. Alors il dit que pour que ta prospérité soit là, donne autant. Et là, comment Dieu, pour me rendre prospère, doit attendre que moi je donne, je paye à quelqu'un? Ça ne peut pas venir de Dieu. Tout ce que nous avons, nous le recevons par grâce. Ce n'est même pas nos jeûnes. Attention. Car quelquefois, ce que nous étions autrefois revient. Vous voyez, comme on dit, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Voyez. Autrefois, on croyait qu'il fallait faire quelque chose pour que Dieu en retour fasse quelque chose. Le salut par les œuvres, oui ou non? Il fallait faire de ceci, de cela, faire des pèlerinages à gauche, à droite. Alors, Dieu se voyait dans. dans l'obligation de faire quelque chose. Non. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour pour nous. Voyez, nous jeûnons, nous prions, oui. Mais au-delà de tout cela, il y a la grâce de Dieu. Car il n'y a aucun jeûne. Si Dieu ferme le ciel, eh bien, aucun jeûne ne peut arriver à l'ouvrir. Aucune vie, quelle qu'elle soit, ne peut arriver à ouvrir le ciel si Dieu le ferme. Donc, tout cela revient petit à petit. L'horoscope qu'on condamnait, toutes ces pratiques de Madonna. Madonna, comment? Voilà. Toutes ces femmes qui prédisent, hein. Maintenant, ça revient. On change simplement d'étiquette. Ces gens, maintenant, s'appellent prophètes et prophétesses. Ils ne vont jamais à l'église. Ils ne lisent jamais la Bible. Alors, qu'est-ce qu'ils vont donner comme prophétie? Quand nous allons parler de la manière de combattre l'esprit de Jézabel, je me permettrai de parler un tout petit peu de ce que la Bible entend par prophète et quelle est la différence du prophète de l'Ancien Testament, du prophète du Nouveau Testament. Quelle est la différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète? Beaucoup d'entre nous, eh bien, de par notre arrière-plan, nous avons tendance, à chaque fois que nous parlons des prophètes, eh bien, à chaque fois que nous parlons de prophétie, de privilégier l'aspect prédictif. Ésaïe a été prophète, oui ou non? Mais dans tout ce qu'Ésaïe a dit, il n'y a pas eu que des révélations futures. Il a épinglé les soulards. Puisqu'en son temps, apparemment, les gens, l'alcoolisme était un problème. Vous voyez? Il a mis le doigt. Il a dit à Israël, vous abandonnez Dieu. Vous pensez que c'était dans le futur? Mais il y a eu aussi des révélations concernant le Messie. Voyez-vous? Il y a eu des choses. Mais le prophète, il prêche. Et nous verrons quelle est l'étymologie du mot prophète. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est prophète. Je l'ai dit parce que c'était déjà une caractéristique dans l'église de Thyatire, oui ou non? Cette femme se disait quoi? Ou qui? Elle se disait. Le Seigneur ne dit pas, je lui ai dit, je lui ai donné le ministère de prophète. C'est elle-même, avec son fort caractère, sa forte personnalité, qui a fini par faire croire à tout le monde qu'elle était et que tout ce qu'elle disait, eh bien, venait de... Mais le Seigneur lui-même le réfute, il dit, non, non, je ne te connais pas, hein. Tu dois te repentir. Tu as entraîné mes gens, mes serviteurs, dans le péché, dans la rébellion, etc. Donc, cette femme, pour aller plus vite, eh bien, c'était une diva mortelle. Une diva terrible, destructrice. Une sorte de vamp, hein, pour ceux qui... Ces femmes, quand vous les voyez, c'est comme des tigresses. Car quand on voit la manière dont elle se comportait vis-à-vis de son mari, on peut se rendre compte du pouvoir de séduction qu'elle avait sur lui. Au point où cet homme-là était l'ombre de lui-même. C'était elle qui tirait les ficelles. Évidemment, les gens d'Israël voyaient, oh, nous avons un grand roi. Un roi qui prend des décisions. Mais en réalité, la louve était derrière. Ouais. Ouais. Dans le meurtre de Naboth, qui était derrière? C'était Jézabel. Ouais. Quand elle apprend que Élie a confondu les prophètes des Baals et des Astartés, il a dit quoi? Tu laisses cet aventurier là? Écoute, tu vas voir. Moi-même, je vais m'en occuper. Oh là là. C'est elle qui décide, hein? Laisse-moi, je vais le faire. Donc, un pouvoir, une personnalité terrible. Et ça, c'est une des caractéristiques. La manipulation. Elle ne peut pas venir de Dieu. Un homme de Dieu qui manipule l'Église ne peut pas être lui-même manipulé par Dieu. Pourquoi? Parce que la manipulation implique qu'on impose sa volonté. Oui ou non? Or, c'est pour la liberté que Christ est mort pour nous. Alléluia. Un manipulateur, eh bien, donne des prophéties pour manipuler les gens, le maintenir dans une sorte de dépendance spirituelle. Vous ne pouvez rien faire tant que vous n'avez pas reçu une prophétie, je veux dire.
Et c'est ainsi que des gens se retrouvent prisonniers de ces prophétesses ou de ces prophètes, avec tous les dégâts que cela entraîne. Combien de divorces, parce qu'un jour un prophète est passé par là. Combien d'églises détruites, mes amis. Oui. Mon épouse est là, nous avions connu à l'église la pierre vivante de Jean Blou. Une femme qui était agitée par cet esprit-là, qui s'est permise un jour, nous l'accueillons, elle vient chez moi, chez nous à la maison, mon épouse est là. Je ne sais pas si Jézabel l'a prise en cet instant. Elle a commencé à qualifier ma femme de Jézabel. Ouais, elle est là. Donc je devais la répudier. Allez. Vous voyez, mes amis, elle a eu au moins le courage. Mais il y en a qui n'ont pas le courage de le dire. Mais par des prophéties, par de conseils sous-entendus. Maman a dit Soana. Ça commence toujours comme ça, notre maman là. C'est-à-dire, hein, votre épouse. Oui, on utilise un peu des euphémismes. Hein? Cette façon un peu elliptique de. On ne la voit plus hein, ces derniers temps à l'église. Ça a l'air un peu, il dit, bon, ah oui, mais elle est malade. Et puis demain, elle revient en charge. Il dit, mais le Seigneur m'a dit qu'il faut beaucoup prier pour elle. Très bien. Ouais. 3 mois après, mais j'ai eu un rêve. Dans une vision, je la voyais être mordue par une vipère. Il faut vraiment prier, pasteur. Eh bien, et puis c'est parti. Jusqu'à ce qu'un jour, elle va dire, mais le Seigneur m'a dit, c'est vraiment la femme de ta vie. Maintenant, moi, je voudrais vous poser la question. Vous qui vous laissez facilement convaincre par ces aventuriers, par ces fausses prophètes, ces fausses prophétesses, dites-moi un peu, Dieu qui connaît toutes choses, va attendre que tu te maries, que tu aies des enfants, pour finalement se dire, hey, oh, je me suis trompé. Dis-lui, ce n'est pas lui. Vous pensez que Dieu agit de cette façon-là? Pas du tout. Pas du tout. Si tu as fait l'erreur, ben, tout ce que tu peux faire, c'est que tu comptes maintenant sur sa grâce. Dieu ne te demandait, il dit, non, tu as fait l'erreur, tu ne m'avais pas consulté. Non, le mariage est mariage même pour les païens. Attention, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais nous n'avions pas été à l'église. Ce n'est pas l'église qui fait le mariage. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Nous autres qui sommes nés dans des petites villes, vous pensez qu'il y a... il y a des enfants, il y a des mariages qui se font au village. Voilà. C'est simplement, les deux familles s'entendent. Il y a d'abord l'amour de deux. Les deux familles, on donne la dot selon la coutume. Et puis on va à l'état civil et puis ça y est. Mais non, nous qui sommes enfants de Dieu. Au-delà de tout cela, il faut d'abord à l'église. Mais attention, ce n'est pas l'église qui fait le mariage. Ce n'est pas l'église qui a institué le mariage. Qui a institué le mariage? Parce qu'il y en a qui trouvent, ils se disent, mais je n'ai pas été à l'église. Donc, c'est la preuve que ce n'était pas la femme de ma vie. Ah oui, mais si tu pars sur ce pied-là, eh bien, tous ceux qui ne sont pas nés à l'hôpital et qui sont nés en brousse, ah oui, ne devrait plus compter. Ce n'est pas la qualité de la maternité qui fait notre valeur. Hein? Son mari, elle vous dira, le pasteur Jacques Vernon, la famille est là. Elle est née dans le Lambaréné, non? Ce n'était pas Libreville. Hein? Là, dans un hôpital... de campagne, à l'époque du docteur Albert Schweitzer. Vous pensez que Dieu a regardé, toi c'est Ambrose. En même temps, il y avait des gens qui étaient nés dans la plus grande maternité, Reine Elisabeth en Belgique. Hein? Oui ou non? Dieu ne regarde pas ça. Donc attention avec ce genre d'arguments qui ne tiennent debout. Dans la plupart des cas, c'est simplement parce qu'il y a la convoitise. Parce que quelque part, depuis quelque temps, il y a un frère de la chorale qui fait
qui fait trembler votre cœur. Ouais. Et vous essayez par tous les moyens de l'attirer. Hein? Oui. Alors vous devez faire attention. Jézabel. Ce n'est pas le cas. Ce sont des jeunes. Hein? Donc, gare au cougar. Donc, je referme la parenthèse. Certains n'ont pas compris, tant mieux. Eh bien, donc, pour terminer, nous voyons bien que le terrain était déjà préparé. Et tous les éléments étaient là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Nous assistons à un retour aux choses que nous avions vomies. Quand l'Évangile est arrivé, il nous a fait vomir ces choses-là. Des pratiques spirituelles qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Vous voyez ? On a tourné le dos à la sorcellerie, aux fétiches. On a tourné le dos à l'horoscope, oui ou non? On a tourné le dos à toutes ces choses. Mais aujourd'hui, non. Comme je vous avais dit, j'ai la Bible, je vais l'amener demain, où il y a des prières qu'il faut faire, et pour chaque prière, eh bien, vous ajoutez simplement le nom de Jésus. Et parmi ces prières, on s'adresse au soleil. Je vous ai dit ça ici, hein? Et si vous avez cette Bible-là, vous devez me l'apporter. Au soleil, fais ceci, au nom de Jésus. Oui, j'ai ça, je ne vous raconte pas, j'ai ça. Si vous avez cette Bible-là, de grâce, ramenez-la, et à la place, je vous donnerai une autre Bible gratuitement. On s'adresse à la lune. Lune, ceci, cela, couche-toi sur mes adversaires, au nom de Jésus. Comment? C'est de l'astrologie, mes amis. C'est de l'occultisme. Eh bien, on est en train de rebâtir Jéricho, avec tout ce que cela entraîne comme conséquence. Car l'esprit de Jézabel aime justement cela. C'est son terrain favorable. Alléluia. C'est comme un poisson dans l'eau. Hein? Voyez? Dès que l'eau est là, un poisson est à l'aise. Voyez? Que l'eau vienne du fleuve Congo ou vienne de l'océan, ce n'est pas son problème. Il est dans son élément. Et Jézabel est là. Et pour terminer, puisque Jézabel est là, comment Dieu l'a arrêté, la Jézabel de l'Ancien Testament? Eh bien, nous parlerons deux types d'onction. Évidemment, par le Saint-Esprit. Mais par le Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit qui se manifeste de deux manières. Il y a d'abord l'onction prophétique qui est descendue sur Élie. N'est-ce pas? Eh bien, par cette onction, Élie va lutter contre cet esprit de Jézabel qui animait, qui faisait des ravages terribles. Mais il y a aussi l'onction royale, mais j'aime appeler plutôt ça l'onction guerrière qui va être donnée à Jéhu pour que sa lance devienne une lance de jugement. Alléluia. C'est la conjonction de ces deux onctions qui vont faire que Jézabel termine sa vie très mal. Et ce qui est terrible, c'est que quand elle apprend que Jéhu arrive, eh bien, elle s'effarde les yeux. Hein, les dames, c'est ça, hein? On met les fards, hein? Elle s'effarde les yeux. Hein? Elle s'habille comme il faut. Elle met un ruban sur la tête. Bref, elle se fait belle. Pour essayer de séduire. C'est comme ça qu'elle agira. Mais Jéhu était sous l'onction qu'il avait reçue par le biais du prophète Élisée qui avait envoyé un de ses serviteurs avec une fiole d'huile pour le oindre. Alléluia. Sans onction, nous ne pouvons pas lutter contre cet esprit. Et nous verrons comment aller chercher cette onction d'Élie. Et nous verrons comment être sous l'onction guerrière de Jéhu. Et lorsque nous mettons ces onctions au service du Seigneur, eh bien, croyez-moi, c'est la dynamite du ciel. Croyez-moi, c'est le missile céleste. Quand il tombe là, Jézabel, à l'instar des sauterelles, prennent la fuite. Alléluia. Donc voilà comment nous pouvons mettre fin, briser cette influence de Jézabel parmi nous, envers nous, de Jézabel dans nos églises, c'est en retournant la parole. Car sans la parole, pas d'onction d'Élie. Sans la parole, pas d'onction royale de Jéhu. Tout tourne autour de la parole, alléluia. De la parole telle que nous l'avons reçue, pas de la parole brocantée, de la parole falsifiée. Voyez-vous? De la parole galvaudée, pas du tout. Mais c'est de la parole pure. Alléluia. Telle que le Saint-Esprit nous l'a laissée. Limpide, puissante, telle que nous la trouvons dans la Bible. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à... Toute la révélation dont nous avons besoin se trouve dans ces livres. Donc on n'a pas besoin d'aller dormir, se coucher au pied d'un archevêque, d'un archebishop ou d'un super apôtre pour avoir cette onction-là. Elle se trouve dans le Seigneur, elle se trouve dans sa parole et nous verrons comment la recevoir. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour casser cette influence de Jézabel sur nos vies, sur nos familles. Tu as peut-être été victime d'une fausse prophétie et tu as fait des choix, eh bien, en conséquence. Et aujourd'hui, tu regrettes cela parce que tu te rends compte qu'avec le temps, c'était une fausse prophétie. Eh bien, c'est l'esprit de Jézabel qui t'a séduite ou qui t'a séduit. Et aujourd'hui, tu voudrais demander pardon, Seigneur. Et tu voudrais que nous prions pour toi. Eh bien, lève simplement la main et nous allons prier. Et nous allons invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Car le Saint-Esprit est là. L'Esprit qui avait donné l'onction à Élie, l'Esprit qui avait donné l'onction à Jéhu, c'est le même Esprit qui est avec nous aujourd'hui. Et par cet Esprit, et sous son onction, nous pouvons mettre en déroute, mes amis, cet Esprit, briser son influence, briser son pouvoir autour de nous. Alors, si tu as été victime de toutes ces fausses prophéties, de ces faux enseignements, voyez-vous, eh bien, et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ces enseignements vous ont égaré, qu'ils ont finalement ils vous ont fermé toutes les portes. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez comme dans un cul-de-sac. Vous tournez en rond. Eh bien, levez simplement votre main. Oh, merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour les mains qui se lèvent. Alléluia. Le Seigneur qui s'est adressé à Thyatire, eh bien, a demandé à cette femme de se repentir. Ce Seigneur qui s'est adressé à Thyatire, est le même aujourd'hui. Alléluia. Eh bien, nous allons invoquer son nom sur toutes ces personnes. Vous qui n'avez pas levé vos mains, essayez de regarder autour de vous. Eh bien, voyez toutes ces personnes qui ont levé la main et pensez à eux. Pensez à toutes ces personnes. Soutenez-les dans la prière. Et ensemble, brisons l'influence de Jézabel sur leur vie. L'influence de la fausse prophétie sur leur vie. Prions tous ensemble. Alléluia. Invoquons le nom du Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Oh, nous bénissons ton nom. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, nous tenons devant toi. Avec toutes ces personnes, Seigneur. Ces personnes qui ont été séduites par Jézabel, qui ont été aveuglées, sur qui, Seigneur, cet esprit a exercé un pouvoir destructeur. Nous voulons, Seigneur, briser l'influence de Jézabel sur leur vie au nom de Jésus. Nous brisons cette influence. Au nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur chacun de nous. Le sang de Jésus. Que la malédiction soit parte au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée. Alléluia. Oh gloire. Oh gloire. Oh gloire. Oh le nom de Jésus. C'est le nom tout puissant. C'est le nom glorieux. C'est le nom de la libération et de la délivrance. C'est le nom qui change la malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus. Yababara yekenga. Yeshua baba yara kenga. Ô Seigneur de gloire, ô Jésus de Nazareth, c'est ton Église. Nous brisons l'influence étrangère. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta lumière. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Jésus. Merveilleux Sauveur.
C'est ce que tu as fait chanter tantôt. Du sautoyer avant, c'est ça. Ce que tu as fait chanter, c'était quoi? Non, non, on ira là.
Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire. Nous sommes devant lui. Lui, notre Sauveur, notre Seigneur. Lui qui dit un mot, la chose accomplie. Que les écailles tombent des yeux. Que notre intelligence soit renouvelée. Que nous voyons comme tu vois, Seigneur. Oh, alléluia. Merveilleux Sauveur, nous bénissons ton nom. Nous proclamons la victoire de Jésus. La victoire de Jésus sur l'esprit de Jézabel. La victoire de Jésus sur les ténèbres.
Alléluia. Alléluia.
La victoire de Jésus sur le mensonge, sur la fausse prophétie, sur la manipulation, sur la séduction. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Oh, gloire. Oh, béni sois-tu. Oh, gloire. Oh, gloire.
Yonde, yamo tu ya ponanga. Ya, ya, eh.
Oh, crions à Jésus.
Ya, ya, eh.
Notre libérateur. En face de Jézabel, celui et lui
seul. Hallelujah.
Arrête!